Oh, quelle grâce il a fallu pour que moi pauvre humain, je sois héritier du salut, de la gloire sans fin.
Cette grâce
m'a enseigné
la crainte du
Seigneur,
et pour toujours
à éloigner la crainte.
Bonjour à tous, bienvenue à ce podcast que j'intitule « Profondément enraciné ». Donc, pour vous mettre en contexte, l'idée de ce podcast m'est survenue parce que, en tant qu'évangéliste, enseignant dans l'Église, j'ai ce besoin d'offrir plus, davantage d'enseignements à l'Église. Surtout durant cette période où l'Église n'est pas capable de se rencontrer physiquement et les disciples ont moins de temps ensemble, les uns avec les autres, pour s'encourager. Donc, je pense que le besoin se fait ressentir et qu'il est énorme pour que les disciples puissent avoir plus de temps d'encouragement. Donc, je réalise également que nous passons une grande partie de notre temps devant un écran. Donc, je me suis dit que ce serait plus facile de présenter ces enseignements, les enseignements qui vont suivre sous cette plateforme. Donc, un podcast qui peut être facilement à télécharger, que l'on peut écouter en prenant des marches, que l'on peut écouter dans la voiture, lorsqu'on se déplace ou même en faisant les tâches domestiques. Donc, moi, c'est quelque chose que je fais sur une base quotidienne. Lorsque j'emmène ma chienne pour une longue marche le matin, j'écoute un message sur un podcast ou lorsque je fais la vaisselle ou lorsque je cuisine. Donc, c'est de là que m'est venue l'idée d'offrir ce podcast. Donc, j'espère que vous allez apprécier. J'espère que cela vous sera utile également. Et j'intitule le podcast Profondément enraciné parce que je réalise que maintenant, plus que jamais, le besoin est énorme d'approfondir nos convictions et de nous assurer qu'elles sont bien basées sur la parole. Donc, ce podcast sera un temps de discussion, un temps de réflexion profonde sur des choses que nous prenons pour acquises d'habitude, mais qui produisent souvent en nous des idées fausses. Et tout ça par rapport à la vie de disciples de Jésus, ou autrement dit, la vie dans le royaume de Dieu. Nous avons des habitudes bien établies en tant que disciples, et je vous invite à repenser ces habitudes, parce que, de toute évidence, nos actions, nos modes de comportement découlent de notre théologie, c'est-à-dire de notre façon de comprendre de Dieu, de comprendre les enseignements bibliques. Et c'est important de creuser dans les Écritures et de chercher à comprendre et à faire une exégèse précise et une herméneutique adéquate. Ça veut dire quoi ces deux mots-là? Exégèse, c'est tout simplement de faire une interprétation, de sortir le sens d'un texte, de bien déchiffrer le message d'un texte, surtout dans le contexte qu'il avait été donné. Là, je parle de textes bibliques, les textes hébreux de l'Ancien Testament et les textes chrétiens du Nouveau Testament. Donc, c'est ça, faire une exégèse, c'est vraiment faire sortir du texte le message tel qu'il était destiné à son auditoire. Ensuite, une bonne interprétation des Écritures passe également par une herméneutique qui est tout simplement appliquer le message du texte à notre situation actuelle, notre situation présente. Donc, c'est simple lorsqu'on y réfléchit, mais ce n'est pas du tout évident parce que ce n'est pas un automatisme. Ça prend une certaine préparation et un training, en quelque sorte. Il faut vraiment changer notre façon de penser. Donc, ce podcast sera divisé en plusieurs séries de conversations, dont la toute première est sur l'Église. Donc, je vous invite avec moi à embarquer dans cette série de discussions et nous allons commencer avec l'idée de repenser notre notion de l'Église.
Oh, quelle grâce il a fallu pour que moi pauvre humain, je sois héritier du salut, de la gloire sans fin.
Donc, pour le premier épisode, nous allons tout de suite entamer avec quelques définitions. Donc, qu'est-ce que l'Église? Quelle est la définition de l'Église? Quels sont les éléments essentiels à l'existence et à l'épanouissement de l'Église? Donc, avant la pandémie, lorsque les gens pensaient à l'Église, voici d'habitude le genre de choses qui leur venaient à l'esprit. Les gens pensaient à une bâtisse, un lieu de culte, un ministre religieux, un prêtre, un pasteur, comme moi, une liturgie. Certaines églises, surtout les églises catholiques, ont une liturgie, une façon de conduire le culte. Certains sacrements, les gens pensaient à des chants d'adoration avec ou sans instrument, à des prédications, sermons ou homélies, à des collectes de fonds. Donc, il y avait tout cet ensemble de choses qui venait à l'esprit des gens quand ils pensaient à l'Église. Pour ceux et celles qui font partie d'une Église ou qui ont l'habitude de participer aux activités d'une Église, ces éléments dans leur esprit sont tout à fait des parties intégrantes d'une Église. Okay? Néanmoins, tous ces éléments ont une chose en commun. Ce sont des aspects de l'Église, certes, mais il ne faut pas les confondre avec ce que les premiers chrétiens considéraient comme étant essentiel. En d'autres mots, selon ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, puis ça va peut-être vous choquer ou vous surprendre, l'Église peut exister sans ces choses. Okay? Je vous donne un exemple concret. Par exemple, comme j'ai dit, avant la pandémie, on se rencontrait physiquement dans un lieu qui était meilleur, on avait nos chants, on avait on prenait la communion, il y avait les sermons et tout ça. Depuis la pandémie, pas juste nous, mais plusieurs églises ont dû se plier face aux contraintes et s'adapter à évoluer dans un monde virtuel. Malgré les difficultés que cette situation entraîne, on a quand même fonctionné pour plus d'une année, presque exclusivement de façon virtuelle. Donc, on n'a pas vraiment eu des rencontres régulières à meilleur. Oui, c'est vrai qu'on a tenté d'avoir des rencontres pour un petit nombre, mais ça n'a pas été sur une base régulière. Donc, on a dû fonctionner d'une façon complètement différente de ce qu'on faisait avant la pandémie. Est-ce que c'est une opportunité qui se présente à nous de repenser notre vision de l'Église? Qu'est-ce que Jésus et ses disciples considéraient comme étant des éléments essentiels pour l'Église? Donc ici, je veux vous inviter à faire la différence entre éléments essentiels de l'Église, c'est-à-dire des éléments sans la présence desquels on ne peut pas avoir une Église, l'Église de Dieu, et des éléments qui sont des ajouts. Okay? On peut appeler des éléments accidentels ou des éléments supplémentaires, additionnels. Donc, avant de répondre à cette question-là, établissons clairement ce que le mot « église » veut dire et rappelons-nous des termes que les premiers chrétiens utilisaient couramment pour parler de l'église. Donc, premièrement, « église » vient du grec, un mot grec, « ecclesia », qui est en fait une association de deux mots grecs. Okay? Le mot « est » qui veut dire « sortir ». Donc, sortir d'un ensemble pour faire partie d'un autre, ek, et le verbe kaleo qui veut dire appeler. Donc, ecclesia, sortir d'un ensemble pour être appelé à sortir d'un ensemble pour faire partie d'un autre ensemble. Donc, tout simplement, le mot en grec signifie assemblée, ensemble de chrétiens. Donc, une définition du mot biblique, du mot église, ou ce que les premiers chrétiens comprenaient, c'est l'ensemble de tous ceux et celles qui sont appelés par Dieu à sortir du monde pour appartenir à Dieu et à faire partie de son royaume. Donc, l'Église est tout simplement l'ensemble de ceux et celles qui sont appelés à sortir du monde pour appartenir à Dieu et faire partie de son royaume. Regardons quelques passages. En fait, des termes utilisés dans le Nouveau Testament pour parler de l'Église. Okay? Le Nouveau Testament utilise un langage imagé pour parler de l'Église et utilise plusieurs termes. Donc, nous allons voir, par exemple, dans Romains, la lettre de Paul aux Romains, Romains chapitre 12, commençons par le verset 5. On va également finir avec le verset 5. Donc, juste un seul verset, Romains 12, verset 5. Paul écrit et il dit, « De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec Christ. Et nous sommes tous et chacun pour sa part membres les uns des autres. » Donc, un terme courant que les premiers chrétiens utilisaient pour illustrer l'Église, c'était le corps de Christ. Il y a plein d'autres passages, je vous en nomme quelques-uns. 1 Corinthiens 10, verset 16, 1 Corinthiens 12, verset 12 et verset 27, Éphésiens 4, verset 12, Éphésiens 5, verset 23, Colossiens 1, 24, Colossiens 3, 15. En fait, je me reprends, je sais que j'avais dit au début que l'idée c'est que vous êtes en train d'écouter ce podcast, ce message, pendant que vous faites une autre activité, soit la vaisselle, soit la cuisine. Donc, je ne veux pas surtout que vous brûliez votre cuisson. Donc, je vais vous lire ces passages que je viens de citer. Donc, on a déjà lu Romains 12, verset 5. Je vais vous lire 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 16. 1 Corinthiens 10, verset 16. Paul dit, la coupe de reconnaissance pour laquelle nous remercions Dieu ne signifie-t-elle pas que nous sommes au bénéfice du sacrifice de Christ qui a versé son sang pour nous, et le pain que nous rompons ne signifie-t-il pas que nous sommes au bénéfice du corps de Christ offert pour nous? Donc, encore une fois, le terme utilisé ici pour définir l'Église, l'assemblée des chrétiens, c'est le corps de Christ. En lisant ces passages, je ne fais que référence à eux, c'est-à-dire que je ne vais pas vous donner une explication approfondie du message qu'on retrouve dans ces passages. C'est juste pour illustrer le fait qu'il y avait plusieurs termes que les premiers chrétiens utilisaient pour illustrer, pour parler de l'Église. 1 Corinthiens 12, verset 12. 1 Corinthiens 12, verset 12. Paul dit, en effet, nous avons... Non, pardon, verset 12. Le corps humain forme un tout, et pourtant il a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis à Christ. Encore une fois, allusion au corps de Christ que Paul compare avec le corps humain. Donc, tous les membres du corps humain ont leur importance. En fait, il va continuer au verset 27 en soulevant le point que même les parties qui paraissent moins utiles, moins honorables, reçoivent plus d'honneur. Et il dit que si un membre souffre, tous les membres souffrent. Si un membre se réjouit, tous les membres se réjouissent. Donc, la comparaison, l'image qu'il a utilisée pour illustrer l'Église est le corps humain. Donc, l'Église est appelée le corps de Christ. Un autre terme qui était utilisé couramment par les premiers chrétiens pour parler de l'Église, c'était la famille, l'idée de la famille. Donc, l'Église est un corps de Christ, composé de plusieurs membres. L'Église aussi est une famille. Éphésiens 3, verset 15, Paul nous dit, on commence au verset 14, « C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent, comme d'un modèle, toutes les familles des cieux et de la terre. » Donc, Paul fait référence à l'Église comme étant une famille. Galates, chapitre 6, un autre passage, ici, au verset 10, Paul dit « Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. » OK? Famille. Troisième terme, très courant dans le langage des premiers chrétiens par rapport à l'Église, c'était le temple de Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 16, nous dit, 1 Corinthiens 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ?» Paul est en train de parler à l'assemblée des chrétiens à Corinthe. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira, car son temple est saint et vous êtes ce temple. » Okay? Donc, l'Église, c'est le temple de Dieu. Autre terme, maison de Dieu. L'Église est aussi la maison de Dieu. Dans 1 Timothée chapitre 3, au verset 15, 1 Timothée 3, verset 15, Paul dit « Afin que si ma venue devait être retardée, » donc c'est à la suite d'avoir donné des instructions spécifiques sur le comportement des chrétiens à Éphèse, Paul écrit à Timothée « Afin que si ma venue devait être retardée, tu saches en attendant comment on doit se comporter dans la famille de Dieu, c'est-à-dire dans l'Église du Dieu vivant. Cette Église est une colonne qui proclame la vérité, un lieu où elle est fermement établie. » Donc, j'avais dit « famille » ici dans la version « Bible du semeur ». Paul utilise encore le terme « famille ». En fait, il a été traduit le terme « famille ». Mais le terme grec, si je ne me trompe, c'est « maison ». Donc, en fait, c'est ce qu'on voit dans la traduction de Louis II. Okay? C'est une traduction plus littérale ici. Donc, ça dit, je relis le même passage, « mais afin que tu saches, si je t'ordre, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. » Donc, « maison de Dieu ». Un autre terme qui était utilisé, c'est « troupeau de Dieu ». L'Église est le troupeau de Dieu. 1 Pierre, chapitre 5, Pierre écrit sa lettre aux anciens de l'Église et il leur dit « paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. » Évidemment, les anciens n'étaient pas des bergers dans le sens propre. Pierre utilise un langage figuré et il attribue et il compare l'Église, l'Assemblée des chrétiens, à un troupeau. À autre terme, 1 Corinthiens 3, verset 9, Paul parle du champ de Dieu, de l'édifice de Dieu, et 1 Pierre 2, verset 10, Pierre parle encore du peuple de Dieu. Donc voilà plusieurs termes que les premiers chrétiens utilisaient couramment pour parler de l'Église. Revenons à la question. Qu'est-ce qui est essentiel à l'Église? OK. Donc, contexte du 1er siècle, il n'y avait pas de grosse bâtisse. En fait, il n'y avait aucune bâtisse pour l'Église. Rappelez-vous que les premiers chrétiens étaient d'origine juive, dont ils vivaient en Palestine, en Israël. Et le lieu de culte, c'était le temple. Donc, il est normal de comprendre que les premiers chrétiens ne se mirent pas tout de suite à construire des basiliques ou des églises ou des cathédrales comme on le voit aujourd'hui dans le monde. Non, pour eux, ils comprenaient que l'église est tout simplement la famille de Dieu et ils se réunissaient là où ils le pouvaient. Donc, c'est pour ça qu'on voit que les disciples se réunissaient dans la cour du temple. Ils se réunissaient souvent également dans des maisons. Donc, quatre éléments essentiels de l'Église. Premièrement, Dieu. Dieu qui en est l'auteur et l'acteur principal. On ne peut pas avoir une Église sans Dieu. C'est Dieu qui est l'acteur principal. Donc, j'aurai aucune opposition à ce que je dis là, mais ne soyez pas trop vite à penser que vous acceptez cette pensée-là, cette affirmation. Donc, Dieu est l'auteur et l'acteur principal. C'est-à-dire que Dieu, en l'Église, réconcilie à lui toute la création à travers Jésus. On va lire des passages qui sont d'une profondeur inouïe à ce sujet. 1 Éphésiens 1er, regardez le verset 1er. Éphésiens 1er, verset 1 à 6. Paul, apôtre de Jésus, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Bon, voilà, je me suis laissé emporter un peu, mais c'est correct, la parole de Dieu est quelque chose d'inspirant. Donc, j'ai lu jusqu'au verset 10 et je ne sais pas si vous voyez ici que l'idée générale de Paul, c'est que c'est Dieu qui accomplit quelque chose. Et qu'est-ce que Dieu accomplit? Ben, Dieu accomplit cette réconciliation entre lui et toute la création, et il le fait avec l'Église, par le sacrifice de Jésus. Autre passage qu'on voit, qui parle sur ce sujet, 2 Corinthiens 5, verset 19. 2 Corinthiens 5, verset 19, Paul dit tout simplement, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et en imputant point aux hommes leur offense, il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Donc, l'existence, l'essence même de l'Église, c'est d'être un vecteur pour accomplir ce ministère de réconciliation entre Dieu et l'humanité perdue. Donc, l'Église est en quelque sorte un outil que Dieu utilise pour accomplir son œuvre de rassembler et de réconcilier les gens de ce monde à lui. Donc, il doit par conséquent, dans notre pensée, Dieu, occuper le centre de l'activité de l'Église en tout temps. Intellectuellement, ce n'est pas une affirmation qui est difficile à accepter, mais dans la pratique, on peut facilement s'en dévier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, en tant qu'Église, l'essence même de notre existence n'est pas ce ministère de la réconciliation, on passe à côté. Dieu n'est pas l'acteur principal de l'Église. Et c'est un élément essentiel. Si Dieu n'est pas l'acteur principal de l'Église, on ne peut pas avoir une Église. Essayez de réfléchir, de comprendre ce que je veux dire. Donc, si dans notre Église, dans notre Assemblée, la mission, on peut l'appeler une mission, on peut l'appeler un objectif, n'est pas immédiatement de réconcilier l'humanité, un monde perdu à Dieu, on perd le sens du royaume de Dieu. Il y a plusieurs églises. Il faut faire attention à ce que nous ne soyons pas de ce groupe, de cette catégorie, qui, pour eux, le but de l'église, c'est d'encourager les membres de l'église. Donc, c'est une église dont la mission est tournée vers ses membres. Donc, les membres s'attendent à ce que l'église rencontre, comble leurs besoins spirituels, premièrement, émotionnel, physique, relationnel. Okay? Et je ne dis pas que l'Église n'accomplit pas ses tâches, mais ce n'est pas la fonction principale de l'Église. Il y a plusieurs personnes, surtout dans notre monde aujourd'hui, le monde occidental, qui vont avoir une relation transactionnelle avec l'Église. Voilà, je donne ma collecte, je participe aux activités de l'Église et je m'attends à ce que l'Église me redonne quelque chose en retour que l'on peut énumérer de façon spécifique selon nos besoins ou nos priorités ou nos perceptions. C'est une idée qui n'est pas issue du Nouveau Testament. C'est pas comme ça que les premiers chrétiens voyaient l'Église. Les premiers chrétiens voyaient l'Église comme étant un outil entre les mains de Dieu pour accomplir son œuvre de réconciliation. Donc, si ce n'est pas la priorité de l'Église, Dieu n'en est pas l'acteur principal. Et par conséquent, on ne peut pas avoir une Église parce que ça, c'est un élément, l'élément essentiel de l'Église. Deuxième élément essentiel de l'Église, c'est Jésus-Christ. Donc, on a Dieu, on a Jésus-Christ, à travers lequel l'Église, qui est son corps dans le monde, est réconciliée avec Dieu et manifeste son amour dans le monde en suivant son exemple. C'est Jésus qui nous donne la vie. C'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui nous transforme. Dans Romains, chapitre 8, verset 1 à 10, Romains 8, verset 1 à 10, Romains chapitre 8, verset 1 à 10, ok. Paul nous dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Wow. Essentiellement, Paul dit que nous marchons naturellement selon la chair. Et puisque nous marchons selon la chair, de par nous-mêmes, nous ne pouvons plaire à Dieu. Voilà le rôle important que Jésus joue pour nous. Jésus est venu en chair, cependant il a marché selon l'esprit. Il a accompli toutes les attentes de la loi. Il a été juste devant Dieu et il a été offert en sacrifice parce que justement il était juste. C'était un sacrifice acceptable pour nous pardonner de toutes nos offenses. Donc, il a été une victime expiatoire, propitiatoire, c'est-à-dire pour calmer la colère de Dieu et pour payer notre rançon. Donc, à travers Jésus, nous avons le pardon. Par le biais de son sacrifice, nous avons aussi cette opportunité de marcher selon son esprit. Donc, sans Jésus, il n'y a pas d'église. Autre passage à ce sujet qu'on retrouve dans Éphésiens au chapitre 2, verset 1er, Paul dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions dans leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Message de Paul ici, c'est que, encore une fois, nous étions morts par nos offenses et nos péchés. Nous étions l'objet de la colère de Dieu que nous méritions. Mais Jésus est venu, il a payé le prix pour nous, et Dieu nous a ressuscités avec lui pour nous faire entrer dans sa justice, donc faire partie de sa famille, de son corps, de son peuple, de son temple, de l'Église. Donc Jésus est essentiel à l'Église. Troisième élément essentiel, vous allez sans doute le deviner, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est la présence de Dieu dans nos vies et qui opère une transformation miraculeuse en nous pour nous conformer à l'image de Jésus. Rappelez-vous le passage que je viens de lire précédemment dans Romains chapitre 8, où Paul dit que si nous avons l'Esprit, nous ne vivons pas selon la chair, et il insiste que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, eh bien il n'appartient pas à Jésus. Un autre passage à ce sujet, c'est dans 2 Corinthiens 3, au verset 18, qui parle de l'œuvre de transformation que l'Esprit accomplit en nous, Paul dit « Nous tous qui le visage découvert contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Donc l'Esprit nous sanctifie, l'Esprit continue de travailler en nous individuellement et sur le plan collectif dans l'ensemble de l'Église pour nous conformer à l'image de Jésus. OK? Donc, quatrième et dernier élément, c'est le peuple, la famille de Dieu. Le peuple et la famille de Dieu. C'est le quatrième élément essentiel pour avoir l'Église. J'aime cette définition de l'auteur Ron Highfield qui dit que l'Église est l'ensemble des personnes qui, avec une foi obéissante, ont répondu à l'appel de Dieu et par le baptême ont été incorporées en Christ par l'œuvre du Saint-Esprit, et ainsi sont devenus un seul corps, un seul peuple et une seule famille. je relis, l'Église est l'ensemble des personnes qui, avec une foi obéissante, ont répondu à l'appel de Dieu et par le baptême ont été incorporés en Christ par l'œuvre du Saint-Esprit et ainsi sont devenus un seul corps, un seul peuple et une seule famille. Un passage dans 1 Pierre 2, 1 Pierre chapitre 2, qui parle à ce sujet, 1 Pierre 2, verset 9, 1 Pierre 2, verset 9, Pierre dit, en parlant aux chrétiens, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, le quatrième élément essentiel à l'Église est le peuple de Dieu. Cette famille de saints qui ont répondu à cet appel de Dieu, la bonne nouvelle, l'Évangile, et par leur baptême, ont incorporé en Christ et ont été incorporés en Christ par l'œuvre du Saint-Esprit et ils forment le corps de Christ, le peuple de Dieu et la famille de Dieu. Donc, en résumé, nous avons parlé de quatre éléments essentiels qui forment l'Église. L'Église n'est pas une bâtisse, n'est pas une structure. L'Église est l'ensemble des gens qui sortent du monde, qui répondent à l'appel de Dieu pour former sa famille et faire partie de son royaume. Il y a des éléments qui sont essentiels et d'autres qui ne le sont pas. Des éléments essentiels, il y en a quatre. Il y a Dieu, qui est l'auteur et l'acteur principal. Il y a Jésus, par lequel nous sommes réconciliés. Il y a l'Esprit Saint, par lequel nous sommes sanctifiés. Et il y a l'ensemble des chrétiens qui ont été baptisés et qui ont répondu à l'appel de Dieu. Donc, pour conclure, je vous pose quelques questions. Je vous invite à réfléchir sur le sujet. Je vous invite à me partager vos réponses par courriel. Vous pouvez envoyer un courriel. Mon courriel, c'est très facile. C'est mon prénom et mon nom en un seul mot, Stanley Dumorné, @gmail.com. Et voilà les questions que je vous propose comme discussion. Premièrement, connaissez-vous quelqu'un qui est épuisé par son expérience avec l'Église ou qui est désabusé et devenu cynique par rapport à l'Église? Ça peut être vous, ça peut être un frère ou une sœur dans votre groupe de famille, ça peut être un ami, un collègue de travail, quelqu'un qui a une pensée négative de l'Église. Ok? Il y en a plusieurs. Deuxième question. L'Église oublie souvent que Dieu est l'acteur principal de son œuvre. De quelle façon le remarquez-vous? Troisième question. Paul, Pierre et les autres apôtres nous enseigne que l'Église est le corps de Jésus. Quelles sont les implications d'une telle perspective? Et quatrième question. L'œuvre de Dieu consiste à réconcilier activement le monde à lui en Christ. Donc, toute institution au sein de laquelle cette œuvre n'est pas évidente ne représente pas l'Église. Que pensez-vous de cette affirmation? Donc, comme on l'a dit tantôt, si la mission, l'essence, l'activité principale de l'Église n'est pas le ministère de réconcilier le monde avec lui, est-ce qu'on peut dire qu'on est vraiment une église? Donc, merci d'avoir écouté les amis. On se rejoint la prochaine fois. Et envoyez-moi vos commentaires et vos questions que nous allons discuter dans les prochains épisodes. Restez proche de Dieu et soyez profondément
enraciné. La crainte de mon cœur, cette grâce.